notre dernière intervenante, Valérie Lebrun, qui est ma doctorante en études littéraires à l'UQAM. Le titre de sa thèse qu'elle vient de me livrer, « Sous la constellation des filles d'Antigone, de la tactique amoureuse vers un féminisme tragique ». C'est ça? Je ne l'ai pas raté? Et puis ça porte sur l'amour. Son texte aujourd'hui s'intitule « Les filles comme toi, quand l'amour de l'une force la langue de l'autre ».
Oui. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour une fille comme moi se mettrait à parler d'amour. Encore moins à l'université lors d'une journée d'études portant sur la violence et l'érotisme dans la littérature. Parler de sexe, ça oui, tout le temps, parce qu'échanger sur les limites des corps, ça donne l'illusion de créer des liens. Que ce soit entre filles, entre gars, ou parler de soi, Que ce soit entre filles ou entre gars, parler de soi, on vient souvent à partager sur les expériences du corps. Les bonnes, les inventées, mais surtout les mauvaises. Parce que quand ça ne fait plus pleurer, ça nous fait rire, et qu'il y a là une connivence facile. On se surprend rapidement à dire « oh oui, moi aussi », puis aussitôt « ah ça non, jamais ». En fait, le corps, on pense le connaître, on se permet de le juger, de le comparer aux autres. On commence très jeune à en tester les limites, puis on apprend à réfléchir sur lui et avec lui, en essayant de se convaincre que le corps idéal n'existe pas. Qu'au mieux, il y a mon corps, ton corps, et puis ce qui se produit quand l'un et l'autre se rencontrent. Avec le féminisme, on a vu les corps sortir dans la rue, dénudés, déguisés, tatoués, uniformisés et démultipliés. On les a non seulement vus prendre le risque de se montrer, mais on les a vus créer des stratégies dans le présent pour que soit mise en scène à répétition la violence du corps à corps avec l'histoire. D'un corps à corps qui s'est imposé aux filles, qui a lieu sur elles, quand on leur apprend dans la violence douce de l'éducation que le corps, il faut le protéger, le préserver. Que pour survivre, le corps doit apprendre à anticiper le danger, à éviter les coins sombres, que les filles, pour grandir, doivent inévitablement passer par là. Par cette prise de conscience que le corps prend forme dans le désir et la menace qui le lie aux autres corps. En tant que fille à qui on a répété 1000 fois d'être prudente, de ne pas revenir seule quand il fait noir et de rester là, tranquille, en attendant qu'on vienne la chercher, j'ai d'abord voulu penser aux effets pervers qu'engendre la peur sur le discours des filles aujourd'hui. Puis j'ai voulu penser à ce qui reste de ces peurs-là dont on gave violemment les filles quand on leur répète à l'infini que tout ça, c'est de l'amour pour elles. C'est pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui de cette langue tentaculaire qui prend forme quand tombe ou s'épuise enfin les interdits. Quand les filles se mettent à dire « je », consciente bien sûr que « je » est une autre, ou mieux encore, que « je » peut se prendre pour une autre. Une langue qui s'invente loin d'un certain idéal et dont la seule logique serait celle qu'imposent les filles qui en ont marre de cette logique qui n'est pas la leur. Une langue qui serait donc toujours sur le point de recommencer à se dire pour éviter le piège d'une quelconque réconciliation avec le passé. Comme l'a écrit Camille Laurence, chaque fois qu'on dit « jamais », on tente d'aller au bout du temps. C'est donc en écho à tous ces « jamais plus » qui s'entendent à la fois comme menace et comme serment que j'ai envie de penser l'ultime violence, celle qui s'opère au nom de l'amour et qui est capable de faire croire, par le double tranchant des mots, que la douleur est le prix à payer pour être aimé et l'être en retour. Ou, pour le dire avec Christine Angot, une violence qui, comme l'amour, se mesure à ce qu'on est capable de lui sacrifier. Je situerai donc les grandes lignes de ma réflexion sur ce point tournant dans l'imaginaire contemporain, où les langues se délient, où les pages se déchirent, et où les filles utilisent le présent de l'écriture, non pas simplement pour détourner ou saboter les mécanismes par lesquels arrive de tout temps la violence, mais bien pour créer une langue capable de porter cette violence-là ailleurs, moins sur le corps des filles que dans la face du monde. Récemment, alors que j'exposais vaguement le corpus de mon projet de thèse à quelqu'un, rencontré dans le détour d'un couloir, cette personne s'est exclamée « Oh mon Dieu, toutes les mauvaises filles de la littérature, ça te fait pas peur? » Bon, il y avait pour moi dans cette exclamation beaucoup de matière à réflexion. Mais sur le coup, j'avoue avoir un peu figé, hésitant entre souligner l'ambiguïté de ce « mauvaise fille » ou garder tout ça pour moi, esquisser un sourire et partir. En fait, l'idée de la « mauvaise fille » ne me déplaisait pas. Elle me rendait un peu fière de ces filles que j'avais choisies pour la force implicite de leur texte qui réside dans mon sens et pour le dire avec les mots de France Théoret. Non pas dans le cloisonnement, mais bien dans le refus catégorique de se mettre à l'abri des contaminations vertigineuses de la pensée qui circule d'un espace d'écriture à l'autre. Je dirais d'ailleurs que c'est l'espace vers lequel s'ouvrent ces voies romanesques qui m'intéressent, un espace capable de porter, ou du moins d'accueillir, l'idée d'un autre cœur, un espace où il serait peut-être enfin possible de réinventer l'idée même d'un cœur tragique, désorganisé, où se ferait entendre la discordance, les échos, l'interférence, les points de contact et de fuite d'une langue amoureuse. En ce sens, je dois spécifier que si les différentes narratrices de mon corpus se situent à la limite d'une certaine solitude, si elles effleurent même parfois, par moments, l'impossibilité de s'en sortir, leurs langues sont solitaires dans la seule mesure où elles naissent d'une pratique littéraire singulière. d'une écriture consciente à la fois des codes de la transmission et du potentiel subversif de la filiation des filles en littérature. Considérant le temps qui m'est alloué aujourd'hui, ma première violence aurait été de choisir une seule des auteurs de mon corpus pour tenter d'établir un dialogue plus ou moins circonscrit, d'où jaillirait en filigrane la question suivante. Qu'est-ce qui se produit dans l'écriture quand la violence se retourne contre elle-même? C'est-à-dire quand le prétexte de l'amour ne suffit plus pour empêcher les filles d'agir seules, mais qu'en même temps, ce prétexte devient la raison même qu'évoquent les filles qui se mettent à écrire pour dire qu'il est encore possible de se placer au cœur de l'action, au cœur de l'amour, par le texte. Dans cette optique, choisir une auteure plutôt qu'une autre me semble impossible. Je crois devoir les penser ensemble, puisque c'est dans les liens fragiles qui se tissent entre la violence de l'amour et celle décalée et décuplée de sa narration par chacune d'elles que réside, à mon sens, la mise en place complexe d'une tactique amoureuse au sein de la littérature contemporaine. Une tactique, donc, que je souhaite penser sous le mode de l'inclusion excessive plutôt que de l'exclusion ponctuelle. Un choix qui témoignerait, bien sûr, du parti que prennent les auteurs qui m'intéressent de tout prendre, de tout dire. La narratrice du roman « L'avenir » de Camille Laurence soutient que si tout est dit, il n'y a qu'à le redire, et que si tout est vécu, il n'y a qu'à le revivre. Christine Angot, elle, en fait la promesse quand elle écrit dans « L'inceste », et je cite, « J'ai dit que j'allais écrire certaines choses, et je vais le faire, vous verrez, j'irai jusqu'au bout. » Il y a aussi dans le récit « Putain » de Nelly Arcand, cette phrase qui va comme suit, « Mais ne vous en faites pas pour moi, j'écrirai jusqu'à grandir enfin, jusqu'à rejoindre celle que je n'ose pas lire. » Je ne pourrais passer à côté de la narratrice du plus récent roman de Martine Delvaux, « Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage », quand elle affirme, et je cite une fois de plus, « Je déterre les restes avec délicatesse, précision, assurance, conviction. Tu m'accuseras de violence et je te montrerai comment la violence devient poésie, comment les obus sont désamorcés. » Puis, il y a la Solange de Marie Darrieussecq qui, dans le tout récent « Il faut beaucoup aimer les hommes », dit en fin de chapitre que c'est la même catastrophe et c'est insupportable, il faut la revivre, vite. Et Flore Forget, la narratrice du roman « Fleur de crachat » de Catherine Mavrikakis, qui soutient, et je cite, « Que la répétition, ça me redonne vie, même épuisée. Je reprends goût aux choses. Je ne connais que cela, la reprise, once again, one more time, la même chose, s'il vous plaît, encore, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, que cela recommence, sans cesse, toujours, 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 arrête pas. » Je pourrais citer presque à l'infini des bouts de ces textes qui forment une partie de mon corpus, non pas pour chercher les ressemblances ou tordre les discordances, mais bien pour arriver à mettre en lumière la manifestation d'une certaine répétition tragique dans la littérature contemporaine. Un élan qui, dans chacun des récits, se traduit d'une part par le désir violent des narratrices d'aller au bout d'elles-mêmes, et d'autre part par le risque qu'elles prennent en mettant en scène le geste d'écrire, d'aller au bout d'une certaine histoire. La répétition du geste serait donc tragique, au sens où elle ne ferait pas que participer à un imaginaire de la fatalité, mais bien parce qu'elle donne lieu au mouvement mortifère que crée la langue des filles pour retenir l'autre le plus longtemps possible, pour que justement la fin ne soit jamais attendue, ou pour le dire autrement, que la fin des filles ne soit jamais celle qu'on avait prévue pour elles. Il me semble donc pertinent de réfléchir à la violence de la répétition comme figure de synthèse, par laquelle pourrait enfin s'esquisser un récit singulier, inédit, à venir. J'aimerais revenir à ce qu'a écrit France Théoré en 2009 dans ses Écrits au noir, quand, à propos du féminisme, elle avoue, et je cite, « Il n'y a aucune pureté dans ma relation au féminisme. » Elle ajoute aussi, « J'ai la certitude que formuler ma pensée politique ajoute aux différentes esthétiques et aux approches de la fiction. L'engagement ne donne aucune direction unidimensionnelle à la fiction. Tel que je le conçois, l'écrit politique porte l'acte d'écrire en interrelation avec la pluralité des idées. Il s'agit, dit-elle, d'une énergie intellectuelle capable de dynamiser l'ensemble des idées, de traduire un mouvement. » Il va sans dire que ma réflexion est très sensible à cette idée d'un mouvement susceptible de faire sortir les œuvres choisies en dehors du territoire ou du cadre dans lequel elles ont souvent été très vite classées. Bien sûr, le fait de choisir des récits narrés à la première personne qui flirtent avec les limites de l'autofiction n'est pas un hasard. Or, je considère que l'idée de rapprocher ou de penser ensemble des œuvres tout à fait singulières, écrites au jeu par des femmes depuis 1990, peut se faire entendre autre chose qu'une expérience de l'intime, voire d'un passage du privé vers le public. J'aimerais en fait qu'on réentende dans la radicalité de ces voix de filles qui font d'un certain pan de la littérature contemporaine la possibilité, voire l'ouverture d'un espace nécessairement hanté, où s'inventerait sans jamais se fixer un réseau d'influence, un réseau imaginaire capable de pointer, comme le souligne France Théoret, vers des existences véritablement singulières, fortement singularisées, mais cela par la décision d'élire des affinités. Si Théoret rappelle que le féminisme est sans chef de file et sans hiérarchie, et que c'est un mouvement qui s'est voulu politique par la mise en relation de la vie privée avec la vie active, Je dirais avec elle que le féminisme, comme espace de théorie, de création et d'action, peut être coextensif à l'écriture, n'être ni au-dessus, ni en deçà, ni présupposé, ni extérieur. Que le féminisme est un apport intrinsèque des usages de la langue. Avant de conclure, je me permets de citer un peu longuement un passage de l'essai qu'a publié récemment Martine Delvaux aux éditions du Remue-Ménage et qui s'intitule « Les filles en Syrie ». Dans ce passage de la conclusion, elle écrit « Didi Huberman, à la suite de Hannah Arendt, affirme que, dans notre façon d'imaginer, gît fondamentalement une condition pour notre façon de faire de la politique. » Elle ajoute que « amical, sororal, désirant, érotique, politique, ce qui à la fois unit et sépare les filles, ce qui fait leur ressemblance, différence, est le lieu de leur puissance. » Lueur mineure dans un ciel nocturne, chorégraphie scintillante, toujours changeante, elle incarne la survivance qui dit que les filles sont indestructibles. On y lira aussi qu'être féministe, c'est refuser d'être domestiquée, c'est-à-dire enfermée dans une définition du féminin. Qu'être féministe, c'est refuser d'oublier de penser. Conjuguée au mouvement violent de la répétition, l'idée d'une fille indestructible est forte d'un imaginaire réinventé, renouvelé, ou du moins qui appelle à être pensé. D'emblée, quand on parle des filles, on pense à ce qui précède la femme, à ce qui appartient à une certaine jeunesse, à une certaine innocence. Or, comme le propose Martine Delvaux à travers son analyse plurielle d'images de filles en Syrie, si le fascisme des filles en Syrie relève de ce que la figure impose comme identité, ce qu'elle représente en tant que modèle, son contre-fascisme, sa résistance, son optimisme naissent dans sa réimagination et sa mise en mouvement. Les filles en Syrie refusent l'immobilité, elles refusent l'essentialisme, la loi de l'identitaire. Elle propose, dit-elle, de fausses pistes, séduisent pour prendre au piège, usant de l'harmonie esthétique pour anesthésier leur public, comme la mante religieuse, son partenaire. Dès lors, si de la langue amoureuse des filles jaillit une certaine violence, ce ne serait peut-être plus celle d'une menace de rompre, mais au contraire, d'une menace bien réelle de faire apparaître dans le présent de l'écriture tout le poids du passé et celui ingouvernable de l'avenir. De cette langue qu'inventent les filles pour dire chacune pour soi ce qui les lie les unes aux autres, il faudrait ainsi entendre la répétition infinie du pronom antipersonnel « je » par lequel, comme le dit Camille Laurence, commencent toutes les phrases impossibles. Dès lors, la violence ultime des filles en littérature se penserait peut-être dans le travail et la reconnaissance d'une langue mobile, vivante, visant à faire entendre l'angoisse des commencements et l'inévitabilité de la fin. En regard du ou des féminismes, cette langue ne viserait pourtant pas à communiquer un message, mais plutôt à la manière de la lettre d'amour, à exprimer et à réactualiser sans cesse la puissance des filles à dire « je », à l'écrire et à faire en sorte que rien ne s'épuise d'une telle stratégie d'écriture, qui serait portée, comme le dit France Théoret, par la nécessité d'œuvrer dans l'incertain et pour l'avenir. Le dispositif de la lettre d'amour assimilée, greffée ou insufflée au roman qui m'intéresse traduit, à mon sens, la véritable violence, une violence de proximité qui trouve son élan au cœur d'une écriture soliloque visant à bloquer l'intrusion de l'autre, c'est-à-dire dans un récit qui comble tous les espaces, ne laissant aucune chance au dialogue. Cette violence ne serait pourtant pas fermée sur elle-même, parce qu'elle est sans cesse dirigée vers l'autre, pensée en fonction de sa réception par l'autre. Comme l'écrit Camille Laurence, « On peut séduire n'importe qui avec des mots tracés pour lui sur une feuille de papier. C'est un pouvoir extraordinaire, phénoménal, monstrueux, quoique peu usité. La lettre d'amour est d'une efficacité redoutable, mais méconnue. Que le destinataire ait ou non avec eux une grande familiarité, qu'il soit un esprit complexe ou un cœur simple, les mots l'atteignent, les mots le touchent. Les mots écrits ont une mémoire, dit-elle, ils sont chargés d'histoire, comme s'ils commençaient tous par « Il était une fois ». La lettre d'amour, ou du moins les mots pensés et écrits dans l'instant pour dire le temps mort, le lieu ou l'espace de l'amour, me permettra éventuellement de penser la réactualisation par les filles d'un discours amoureux et d'un mouvement tragique dans l'imaginaire contemporain. Oscillant entre le futur, qui s'inscrit chaque fois dans l'espoir d'une première fois, et le risque que cela comporte d'écrire dans le présent, comme si c'était la dernière fois, je dirais, en empruntant les mots de Christine Angot, que « ne me quitte pas » n'a jamais fait revenir personne. C'est pourquoi la violence, pour arriver à donner son mouvement à la langue amoureuse, doit venir d'ailleurs. Elle doit s'organiser autrement dans l'écriture, très loin de la nostalgie et tout juste aux abords de la mort. Parce que la violence tient dans mon corpus au pouvoir de la contradiction. Elle me permet d'imaginer une alliance vive, mais jamais fixe, autour de laquelle n'a pas fini de s'inventer, dans le contemporain, la langue amoureuse des filles.